Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus-Christ en vous, en nous, par le Saint-Esprit. Ceci est l'étude numéro 13 et le thème sera « Vers l'unité ». En général, lorsque on parle des relations entre les hommes, on en parle en termes d'émotions, de volonté et de sentiments. On découvre la communauté dans une expérience émotive ou dans un effort de notre propre volonté vers l'unité, ou enfin dans un accord intellectuel. Nous voulons aujourd'hui indiquer une voie tout à fait différente, sans pour cela diminuer ou mépriser les autres moyens mentionnés. Aussi longtemps que nous restons humains, il faut nous servir de ces moyens. Nous disons qu'il y a une voie tout à fait différente qui comprend le réel et l'essentiel de ces moyens mentionnés et qui est pourtant d'une toute autre nature. Si nos relations sont limitées au plan horizontal, si nous recherchons l'unité seulement à notre propre niveau, c'est-à-dire directement d'une personne à l'autre, pour trouver l'unité et la compréhension entre nous et notre prochain seulement, nous pouvons certainement passer des heures inspirées, mais il ne nous restera rien de fondamental, car nous sommes, pour ainsi dire, suspendus comme des nuages qui circulent autour de la Terre. Oui, nous ne pénétrons pas dans les dernières profondeurs et nous ne sommes pas visités des hauts lieux. Donc, notre rapport ne doit pas seulement être un rapport d'une personne à l'autre, car aussi longtemps que nous nous connaissons, et surtout si nous nous connaissons seulement ainsi, nous restons suspendus et nous n'avons pas de racines et nous ne pouvons pas grandir. Mais si, par exemple, nos rapports humains ont leur origine dans les hauts lieux célestes, et si nous recherchons l'unité sur le plan vertical de la profondeur vers les hauts lieux, c'est-à-dire vers Dieu le Père et Jésus-Christ, alors tout devient différent. Nous pouvons alors voir et connaître, goûter et apprendre comment ces efforts de notre volonté, ces expériences émotives sont assujettis aux effets de la lumière et du pouvoir qui détruit tout ce qui ne peut subsister dans le feu de la vérité éternelle qui embrase tout ce qui désire ardemment être flamme et lumière. La prière et le désir pour une véritable communauté s'élèvent comme une flamme, les mains et les bras embrasés de notre cœur sont tendus vers les hauts lieux, c'est-à-dire vers le ciel, pour que la flamme de l'autel du sacrifice, du désir ardent et de la nostalgie soit exécutée en vertu de l'éclair venu d'en haut et grâce au feu descendu des cieux. La flamme ardente qui s'élève ainsi s'unit avec l'éclair de la flamme la plus élevée et notre flamme est purifiée de tout, absolument de tout ce qui est suie, fumée et obscurité. parce que la flamme qui vient de l'autre monde, le ciel, nous embrase, alors nous pouvons dire que s'étendre avec notre prochain n'est pas suffisant. Je dis bien de s'entendre, vous l'avez compris, de pouvoir s'entendre avec notre prochain, cela n'est donc pas suffisant. Ce n'est pas assez d'avoir un but commun, évidemment c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas assez, et avoir que des affinités mutuelles. Au contraire, nous ressentons que quelque chose d'autre doit pénétrer en nous, quelque chose qui nous élève au-delà du niveau purement humain, qui remplit la sphère humaine avec les forces d'un monde entièrement différent. De même que les rayons du soleil éclairent constamment la terre et que l'éclair nous apporte la lumière et le feu, de même un élément doit venir vers nous qui n'a pas son origine en nous-mêmes, ni en nos pensées, ni en nos sentiments les plus élevés, ni en nos qualités, ni en ce qu'il y a de plus sacré en nous-mêmes ou de plus noble dans notre caractère. Il nous est possible de créer uniquement au travers de l'Esprit Saint une unité de conscience entre nous qui nous apporte l'accord total de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions. De même qu'une personne est une unité de conscience en elle-même, l'Esprit Saint crée une unité de conscience parmi ceux qui le reçoivent. Alors la personne individuelle n'est plus qu'une cellule appartenant à l'organisme vivant, à cet organisme de cette unité qui est consciente par l'Esprit Saint. Chers amis, l'Église est un bâtiment vivant. Ça ne doit pas être un bâtiment mort. Les personnes à l'intérieur sont les pierres vivantes. Et ces pierres n'ont rien de parfait en elles-mêmes, c'est vrai. Elles doivent être taillées et intégrées en vue d'être adaptées au bâtiment. Mais le bâtiment, lui, ce bâtiment, est parfait en lui-même. Et voici le secret. La vie de ce bâtiment ne consiste pas en ses différentes parties, mais bien plus, elle provient du Saint-Esprit vivant qui unifie. C'est le Saint-Esprit qui unifie. Ce ne sont pas les parties qui représentent l'unité du bâtiment, donc pas l'accord des opinions diverses. Bien au contraire, dans ces pierres de nature inerte, la vie, elle sera éveillée grâce à l'élément qui rassemble et qui réunit le Saint-Esprit. On pourrait comparer l'Église au pain, oui, au pain que nous mangeons. Les semences sont répandues dans les champs. Ensuite vient la récolte. Les graines ne proviennent pas que d'un seul champ, mais elles sont cuites au four pour former un seul pain. De même l'Église, formée de l'assemblage de diverses nations, de diverses classes de la société, de diverses idéologies, devient un seul pain. Là où Jésus-Christ règne, toutes les questions politiques, sociales, pédagogiques et humaines trouvent leur solution. Ce réalisme des premiers chrétiens est très peu compris aujourd'hui. Pour cela, la parole du Christ doit s'incarner dans l'Église. Puisque aujourd'hui, on entend seulement beaucoup parler de l'avènement de Dieu, il nous faut maintenant agir et créer quelque chose de tangible qui ne peut être ignoré. La manifestation de l'Esprit dans le corporel. Le Christ est le premier dans ce mystère. De même que le Christ a été en Marie, de même est-il en tous ceux qui croient et qui aiment. Le caractère de leur attitude et de leur vie, c'est le caractère de l'avenir de Dieu. C'est le Christ qui fait que le royaume à venir devient réalité dans l'Église. Ainsi, l'Église vit dans la paix et la justice parfaite. Et voici pourquoi elle ne répand jamais le sang et ne supporte pas la propriété privée. Voici pourquoi elle ne peut ni mentir ni jurer. Voici pourquoi elle ne tolère aucune brèche dans la pureté entre les, on peut dire, entre les fiancés ou les personnes unies qui sont unies par le mariage dans l'Église. Et voici pourquoi l'Église doit se libérer, oui, se libérer de tout ce qui conduit à la glorification de l'être humain. Les diverses nations maintiennent une ambassade à Paris, à Rome, Berlin et ailleurs. Le terrain où se trouve l'ambassade est, comme nous le savons, inviolable. Personne ne peut être subordonné aux lois du pays où se trouve l'ambassade, car sur ce terrain seul, la loi du pays d'où vient l'ambassade est donc valable. Il en est absolument de même pour l'ambassade de Jésus-Christ par l'Esprit Saint de son Église. Ici seul, la loi du royaume, ultime et valable, je répète, dans l'Église, la loi du royaume ultime devrait être valable. Depuis que l'Église a reçu une telle ambassade, sa tâche est envers tous les hommes, et cela sans exception. Tous doivent être atteints par le témoignage de la vérité, de cette vérité qui est le but final de l'histoire humaine, l'unité du Christ Jésus révélée dans l'ambassade de l'Église de Jésus. Il n'existe pas d'autre souverain dans cette Église. Il n'existe pas d'autre guide, seulement le chef qui est Jésus-Christ, et non pas un gourou quelconque. Nous sommes donc tous frères et sœurs, les membres sont au service de tous, nous sommes donc des cellules vivantes. Celui qui gouverne ce corps avec le Saint-Esprit, C'est Jésus-Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. Le Fils est le cœur de Dieu et ainsi l'élément le plus intime du Dieu Tout-Puissant nous vient avec le Christ Jésus. Là où existe l'Église véritable, le caractère du Dieu Tout-Puissant qui embrasse et commande toute la création se révèle en Jésus-Christ. Dieu n'agit pas suivant une seule méthode. Il ne se sert pas d'une seule couleur. Il ne joue pas sur un seul ton. Il ne laisse pas une seule étoile briller. Le secret de Dieu, c'est le prisme riche en couleurs, contenu cependant dans la pureté de la lumière blanche du soleil. L'harmonie symphonique des constellations nous montre la plus grande diversité, mais tout ce qui existe sera à la fin des temps rassemblé dans l'unité du royaume de Dieu. Je dis bien, sera rassemblé dans l'unité du royaume de Dieu. Si la communauté cesse d'exister pour toute l'humanité, si elle ne sait plus se préoccuper de la misère du monde entier, alors son existence a perdu sa raison d'être. Personne, oui, personne ne peut lutter de ses propres forces pour la liberté, pour la pureté, pour la communauté entre les hommes, pour la paix, pour un idéal ou pour un renouvellement quelconque de la vie sociale. La mission de répandre la vérité et de rassembler ceux qui ont été éveillés, voilà donc la tâche qui a été donnée depuis le commencement à l'Église. Il faut donc que des groupes de mission aillent dans les maisons et dans les rues pour aider fraternellement et pouvoir à tous les besoins de nourriture, de vêtements et même de domicile, et les besoins qui annoncent l'ordre éternel à venir, des profondeurs ultimes qui ébranlent l'être humain, doit donc naître l'autorité intime, sans laquelle l'activité n'a pas de sens et est en inefficacité. Je le crois. Donc, mes chers amis, pour terminer cette très très courte étude, disons que la petite étable de Bethléem fut la percée de l'amour de Dieu. Les personnages mystérieux venus de l'Orient ont suivi l'étoile et ont découvert la percée ou le mystère d'amour qui se trouvait, on peut dire, emmailloté dans la crèche du bétail, dans la faiblesse sans défense, que chacun à son temps et à son heure peut découvrir ainsi la percée de l'amour de Dieu. Cette percée qu'il suive ainsi l'étoile qui lui est apparue et qu'il reste ainsi fidèle, toujours, à cette étoile qui a pénétré son cœur. Alors là, croyez-moi, le fameux Hérode, le roi, peut bien venir avec ses menaces et poursuivre sans relâche ceux qui suivent l'étoile. car l'ange du Seigneur protégera la révélation de l'amour même au temps de haine la plus féroce et des ténèbres les plus sombres qui se sont déployées sur terre. Amen. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et en même temps pour votre édification. Ce n'est jamais en vain qu'on implore le Seigneur en lui disant « Seigneur, révèle-toi à moi ». Dieu se révèle que rarement dans une vision. C'est donc spirituellement, intérieurement, qu'il se fait habituellement connaître lorsque, par une intuition directe, on prend toujours mieux conscience de son amour, de sa puissance et de toutes les merveilles de sa nature, de son humilité, de sa majesté, de sa tendresse, de sa fermeté et des exigences de sa justice. Oui, pas seulement de sa justice, mais aussi de sa miséricorde, de son feu qui guérit et qui consume. Approchez-vous donc de lui et, croyez-moi, il s'approchera de vous. Quand la vie se complique et devient difficile, cherchez aussitôt la relaxation complète. Abandonnez-vous à la prière ou restez au repos en vous livrant corps et âme à sa puissance de guérison. Vous lui devez d'être toujours détendu, posé, de bonne humeur et enjoué en présence des autres. Et ceci, pour qu'il en soit ainsi, passez d'abord un moment avec lui dans le secret. Et j'ajoute, dans le secret de la prière. Car c'est à lui seulement, à lui votre Seigneur, que vous devez apporter sans réserve vos larmes ainsi que vos peines et que sa bénédiction soit toujours sur vous. Nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, daigne toujours chercher nos cœurs et de les attirer à toi. Ouvre ces cœurs pour qu'ils se rendent attentifs à ta sainte parole. Que l'Esprit de vérité nous enseigne toutes choses et nous conduisent en toute vérité. Ô toi, oui toi, qui es le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de gloire, donne-nous l'esprit de sagesse dans ce qui regarde sa connaissance, afin que nous sachions quelle est l'espérance de la vocation, de ta vocation. Accorde-nous, ô Dieu, de recevoir ta parole avec promptitude, non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme étant la sainte parole de Dieu. Incline nos cœurs à faire ta volonté. Fais-nous connaître tes voies. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, afin que nous puissions nous conduire comme il se doit, selon le Seigneur pour lui plaire à tous égards. Ô notre Dieu, rends-nous sages à salut par la foi en Jésus-Christ, que nous mettions en exécution ta parole. Ne nous contentons pas seulement de l'écouter, mais ne nous abandonne pas pendant cette journée, car nous avons besoin de toi plus que jamais. Bénis nos parents et nos amis, aie pitié de ceux qui souffrent, exauce notre imparfaite prière au Dieu Tout-Puissant, au nom et pour l'amour de notre unique et divin Sauveur. Amen. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu vous aime et Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour ceux qui veulent bien accepter son salut, il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Aussi, avant de nous quitter, eh bien, symboliquement, je vous embrasse tous avec tout mon amour agapé et soyez bénis au-delà de tout, car, souvenez-vous, votre Père Céleste vous aime et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, vous aime au-delà de tout ce que vous et nous pouvons imaginer. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.